Chapitre 35. Ifemelu se réveilla une nuit pour aller aux toilettes et entendit Blaine dans le salon parler au téléphone, d'une voix apaisante et affectueuse. « Désolé, je t'ai réveillé. C'était ma sœur Shan, » dit-il quand il revint se coucher. « Elle est de retour à New York, elle revient de France. Son premier livre va être publié et elle a un petit coup de déprime. » Il s'interrompit. Une petite déprime de plus. Shan en fait souvent. Viendrais-tu la voir avec moi ce week-end? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle travaillait pour un fonds spéculatif. Puis elle a arrêté, a voyagé dans le monde entier, fait un peu de journalisme. Elle a rencontré cet Haïtien et s'est installée à Paris avec lui. Puis il est tombé malade. Et il est mort. Elle est restée un certain temps là-bas, où elle a conservé un appartement bien qu'elle ait décidé de revenir aux États-Unis. Elle vit avec ce nouveau type, Ovidio, depuis un an environ. C'est sa première vraie relation depuis la mort de Jerry. Un mec plutôt bien. Il n'est pas là cette semaine, en voyage en Californie, et Shan est seule. Elle aime organiser des réceptions, elle les appelle des salons. Elle a un nombre incroyable d'amis, des artistes ou des écrivains qui se réunissent chez elle et ont des discussions vraiment intéressantes. Il s'arrêta. C'est quelqu'un de particulier. Lorsque Shan entrait dans une pièce, tout l'air s'évaporait. Elle ne respirait pas profondément, elle n'en avait pas besoin. L'air flottait simplement vers elle, attiré par son pouvoir naturel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour les autres. Ifemelu imaginait l'enfance privée d'air de Blaine, courant après Shan pour lui rappeler qu'il existait. Même aujourd'hui, il était encore le petit frère plein d'un amour désespéré, tentant de gagner une approbation qu'il craignait de ne jamais obtenir. Ils arrivèrent chez Shan tôt dans l'après-midi, et Blaine s'arrêta pour bavarder avec le portier, comme il avait bavardé avec le chauffeur de taxi depuis Penn Station, avec sa simplicité spontanée, se liant avec les concierges, les employés des entreprises de nettoyage, les chauffeurs d'autobus. Il savait combien il gagnait, combien d'heures il travaillait. Il savait qu'il n'avait pas d'assurance maladie. Salut Jorge, comment ça va? Dit-il en prononçant son nom avec l'accent espagnol. Pas mal. Et vos étudiants à Yale? Demanda le portier, apparemment ravi de le voir et ravi qu'il enseigne à Yale. Il me rend dingue, comme d'habitude, dit Blaine. Puis il désigna la femme qui leur tournait le dos près de l'ascenseur. S'est rencontré un tapis de yoga rose. Tiens, voilà Shan. De petite taille, Shan était très belle, avec un visage ovale et des pommettes hautes, un visage impérieux. Salut! Elle serra Blaine dans ses bras. Elle ignora Ifemelu. Je suis vraiment contente d'être allée à mon cours de pilates. Tu perds tout si tu en sautes un. Tu es allée au cours aujourd'hui? Oui. Je viens de parler à David. Il dit qu'il m'enverra d'autres choix de couverture cet après-midi. Il semble enfin m'écouter. Elle leva les yeux au ciel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle entra la première, parlant toujours à Blaine, qui avait l'air gêné, comme s'il attendait l'occasion de faire les présentations, une occasion que Shan n'était pas prête à accorder. La directrice du marketing m'a appelée ce matin, avec cette insupportable politesse qui est pire que n'importe quelle insulte. Elle me raconte que les libraires adorent déjà la couverture et blablabla. C'est ridicule, dit Shan. C'est l'instinct moutonnier du monde de l'édition. Ils font ce que tout le monde fait déjà, dit Blaine. L'ascenseur s'arrêta à son étage et elle se tourna vers Ifemelu. Oh, excusez-moi, je suis tellement nerveuse, dit-elle. Ravie de faire votre connaissance. Blaine ne cesse de parler de vous. Elle lança un long regard à Ifemelu, la jaugeant sans détour. Vous êtes très jolie. Vous êtes très jolie, dit Ifemelu, se surprenant elle-même, car ce n'étaient pas les mots qu'elle aurait habituellement employés. Mais elle se sentait déjà adoptée par Shan. Son compliment l'avait rendue étrangement heureuse. Shan est quelqu'un de particulier, avait dit Blaine, et Ifemelu comprenait maintenant ce qu'il voulait dire. Shan semblait être élue des dieux. Ils l'avaient touchée de leur baguette magique. La moindre action ordinaire de sa part devenait énigmatique. Comment trouvez-vous cette pièce? Demanda Shan à Ifemelu, avec un geste circulaire de la main qui embrassait le mobilier spectaculaire, un tapis rouge, à un canapé bleu, un canapé orange, un fauteuil vert. Je sais que tout est censé avoir une signification, mais je ne vois pas laquelle. Shan rit, des sons brefs qui semblaient s'interrompre prématurément, comme si d'autres allaient suivre, mais rien ne venait. Voyant qu'elle se bornait à rire, sans dire un mot, Ifemelu ajouta « C'est intéressant ?»«
Oui, intéressant !»
Shan se tenait près de la table de la salle à manger et, levant la jambe, elle la posa dessus, se penchant en avant pour saisir son pied dans sa main. Son corps était une succession de courbes gracieuses, fesses, mollets, seins, et son mouvement révélait le privilège de l'élu. Elle pouvait étendre sa jambe sur sa table de salle à manger chaque fois qu'elle le voulait, même avec une invitée dans l'appartement.
« Blaine m'a fait connaître Ray Stinth. C'est un blog formidable ?»
dit-elle.
« Merci, »
dit Ifemelu.
« J'ai un ami nigérian qui est écrivain. Vous le connaissez peut-être ? Kelechi Garuba. »
« J'ai lu ses livres. »
« Nous parlions de votre blog l'autre jour et il m'a dit qu'il était sûr que la noire non-américaine était une caribéenne, parce que les Africains se fichent de la race. Il aura un choc quand il vous rencontrera. »
Shan se tut pour changer de jambe, se pencha à nouveau pour saisir son pied.
« Il se plaint toujours que ses livres n'ont pas de succès. Je lui ai dit qu'il faut qu'il écrive des choses terribles sur son peuple s'il veut réussir. Il doit expliquer que les Africains sont les seuls responsables des problèmes de l'Afrique. » Et que les Européens ont davantage aidé l'Afrique qu'ils ne lui ont nui. Il deviendra célèbre. Les gens diront qu'il est tellement honnête.
Ifemelu rit. Intéressant, dit-elle en montrant une photo de Shan tenant deux bouteilles de champagne au-dessus de sa tête, entourée d'enfants en haillons, souriant, à la peau brune, dans ce qui ressemblait à un bidonville d'Amérique latine, avec à l'arrière-plan des cabanes aux murs en tôle ondulée. Je veux dire. Intéressant au sens littéral.
Ovidio ne voulait pas que je la montre, mais j'ai insisté. Elle est censée être ironique, bien sûr.
Ifemelu se représenta l'insistance, une simple phrase qu'il avait été inutile de répéter et qui avait forcé Ovidio à la fermer.
Vous rentrez souvent au Nigeria ?
Non, en réalité, je ne suis pas rentrée chez moi depuis que je suis aux États-Unis.
Pourquoi ?
Au début, je n'en avais pas les moyens. Puis, quand j'ai eu du travail, je n'ai jamais trouvé le temps. Shan lui faisait face à présent, les bras écartés et rejetés en arrière comme des ailes.
Les Nigériens nous appellent Akata, n'est-ce pas ? Ce qui signifie animal sauvage.
J'ignore si ça signifie animal sauvage. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. C'est un mot que je n'emploie pas. Ifemelu se surprit à presque bégayer. C'était vrai, mais sous le regard direct de Shan, elle se sentait coupable. Il émanait d'elle une forme de puissance subtile et dévastatrice. Blaine sortit de la cuisine, avec deux grands verres remplis d'un liquide rouge.
« Cocktail vierge !»
annonça Shan avec un plaisir enfantin en prenant le verre que lui tendait Blaine.
« Jus de grenade, eau pétillante et un peu de sirop d'érelle, »
dit Blaine en tendant l'autre verre à Ifemelu.
« Alors, quand tiens-tu ton prochain salon, Shan ?» J'en ai parlé à Ifemelu.
Quand Blaine lui avait dit que Shan appelait ses réceptions salon, il avait souligné le mot ironiquement, mais à présent il le prononçait à la française, salon.
Oh, bientôt, je pense.
Shan haussa les épaules d'un air désinvolte, but une gorgée, puis dans la foulée s'inclina de côté pour s'étirer, comme un arbre courbé par le vent. Le téléphone portable de Shan sonna.
Où ai-je fourré ce maudit téléphone ? C'est sans doute David.
Le téléphone était sur la table.
Oh, c'est Luc. Je le rappellerai plus tard.
Qui est Luc ?
Demanda Blaine. Ce Français, un type riche. C'est drôle, je l'ai rencontré à l'aéroport par hasard. Je lui dis que j'ai un petit ami et il enchaîne. Alors je vais admirer de loin et attendre mon heure. Il a vraiment dit « attendre mon heure ». Shan but lentement son verre.
C'est agréable en Europe. Les hommes blancs vous considèrent comme une femme, pas comme une femme noire. Ce n'est pas que j'ai envie de sortir avec eux, sûrement pas. Il me suffit de savoir que c'est une possibilité.
Blaine hocha la tête, approuvant. Si quelqu'un d'autre que Shan avait prononcé ces paroles, il les aurait aussitôt passées au peigne fin, analysant la moindre nuance, et il n'aurait pas apprécié leur portée, leur simplicité. Un jour qu'il regardait un reportage sur le divorce d'une célébrité, Ifemelu lui avait dit qu'elle ne comprenait pas la sincérité intransigeante, sans équivoque, que les Américains exigeaient dans les relations amoureuses. C'est différent pour moi et je pense que c'est parce que je viens du tiers-monde, dit-elle. Un enfant du tiers-monde est conscient des différents cercles auxquels il appartient et sait à quel point la sincérité et la vérité dépendent du contexte. Cette explication lui avait paru intelligente, mais Blaine avait secoué la tête avant même qu'elle ait fini de parler. C'est trop facile d'utiliser l'excuse du tiers-monde. Aujourd'hui, il hochait la tête en écoutant Shan dire « Les Européens ne sont pas aussi conservateurs et complexés que les Américains sur ce sujet. En Europe, les Blancs pensent « J'ai seulement envie d'une femme sexy ». En Amérique, les Blancs pensent « Je ne toucherai pas à une femme noire, mais je pourrais peut-être me faire Halle Berry ». Très drôle, dit Blaine. Bien entendu, il y a un petit groupe de Blancs dans ce pays qui ne sortent qu'avec des Noirs. Mais c'est un genre de fétichisme et c'est moche, dit Shan, dirigeant son regard brûlant vers Ifemelu. Ifemelu hésita à la contredire. C'était curieux de voir à quel point elle désirait plaire à Shan. En réalité, j'ai une expérience contraire. J'attire beaucoup plus les Blancs que les Noirs américains.
Vraiment ?
Shan réfléchit. Je suppose que c'est à cause de vos origines exotiques, de votre côté africain, authentique. Piquée au vif par le dédain de Shan, elle tourna son ressentiment contre Blaine, car elle aurait voulu qu'il n'approuve pas aussi chaleureusement sa sœur. Le téléphone de Shan sonna à nouveau. « Ah, cette fois, j'espère que c'est David !» Elle emporta le téléphone dans sa chambre. « David et son éditeur, ils veulent utiliser une illustration à connotation sexuelle, un torse noir pour la couverture, et elle n'est pas d'accord, » dit Blaine.
« Vraiment ?»
Ifemelu but lentement son cocktail tout en feuilletant un magazine d'art, toujours furieuse contre lui.
« Ça va ?»
demanda-t-il.
« Très bien. »
Shan était de retour. Blaine la regarda.
« C'est arrangé ?»
Elle hocha la tête. « Ils ne vont pas l'utiliser. Tout le monde semble être d'accord à présent. »«
Parfait !»
dit Blaine. « Je pourrais vous inviter sur mon blog pendant un jour ou deux quand votre livre sortira, » dit Ifemelu. « Vous seriez formidable. J'aimerais beaucoup vous avoir. » Shan haussa les sourcils, une expression qu'Ifemelu ne sut pas interpréter, et elle craignit de s'être trop avancée.
« Oui, je pense que c'est possible, »
dit Shan. Obama peut gagner, mais uniquement s'il reste le nègre magique. Son pasteur inquiète, car son discours suggère qu'Obama n'est peut-être pas le nègre magique après tout. Soit dit en passant, le pasteur est plutôt mélodramatique. Mais êtes-vous jamais allé dans une église noire de l'ancienne école ? C'est du pur théâtre ! Pourtant, le point de vue de ce type est fondamentalement juste, à savoir que les Noirs américains, certainement ceux de son âge, vivent dans une Amérique différente de celle des Américains blancs. Ils connaissent une Amérique plus dure, plus laide. Mais vous n'êtes pas censé en parler, parce qu'en Amérique, tout est beau et tout le monde est pareil. Alors maintenant que le pasteur l'a dit, peut-être Obama le pense-t-il aussi. Et si Obama le pense, alors il n'est pas le nègre magique. Or, seul un nègre magique peut gagner une élection américaine. Mais qu'est-ce qu'un nègre magique ? Demanderez-vous. L'homme noir qui est constamment sage et bon, qui ne réagit jamais malgré de grandes souffrances, ne se met jamais en colère, ne profère jamais de menaces. Il pardonne toujours toutes les insultes racistes. Il enseigne aux Blancs comment briser le triste mais compréhensible préjugé qui est dans son cœur. Vous voyez un tel homme dans de nombreux films. Et Obama sort directement de ce casting.